Cette semaine avec le père Jacques Turc, chapelain au sanctuaire de Lourdes.
Nous sommes invités à méditer sur le chant de Marie lors de la visite à Élisabeth, le chant du Magnificat. L'Esprit-Saint était là au matin de l'Évangile, comme il sera là au jour de Pâques. Nous ne pouvons parler de l'Annonciation et de cet événement de l'histoire sans parler de l'Esprit-Saint. Il s'est manifesté à nouveau, non pas d'une manière extraordinaire, par un éblouissement ou je ne sais quel autre phénomène mystérieux. Les évangiles témoignent de sa présence dès le tout premier instant de l'existence humaine de Jésus. Si nous continuons de porter notre attention sur la Vierge Marie, nous devinons que pour Marie, comme pour toutes les mères enceintes, Marie éprouve la présence corporelle, une présence qui se développe en elle, une présence qui n'est pas elle. La formation progressive de ce corps d'homme qui se tisse en elle ne lui échappe pas. Comme toutes les femmes, elle ressent en son corps les premières manifestations de sa maternité et par là même la vérité de ce que l'ange lui avait dit. Selon l'Écriture, cette prise de conscience est liée à l'apparition furtive de l'ange Gabriel et à ce qu'il lui a annoncé. Mais Marie est une femme libre. Elle s'efface. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il en fut ainsi. Marie s'efface derrière l'audace de Dieu. Son oui n'est pas passif. Ses premières notes sur la maternité de Marie mettent en lumière l'humanité de Marie. Et le Fils de Dieu qui prit visage d'homme par l'Esprit-Saint dans le sein de Marie avait besoin d'une mère bien humaine, une mère capable de l'introduire dans la plénitude de l'humanité ordinaire d'un homme de son temps, de l'introduire dans la longue histoire de la religion des pères, d'Abraham et de tous les prophètes. La foi de Marie devait englober toute l'existence humaine de Jésus, enfant, jeune, homme. Tel est le renversement inouï qui s'est produit grâce au consentement de Marie. Dieu se fit semblable à l'homme qu'il a créé. En Marie eut lieu la rencontre du Fils de Dieu et du Fils de Marie. Dieu, à la fois homme, dans l'unique personne d'un être humain, Jésus, ce que l'on appelle, d'un mot un peu compliqué, l'union hypostatique, s'est réalisé dans le sein de Marie. Ce qui advient en Marie par l'Esprit-Saint, arrive d'abord à Dieu. L'événement touche le Fils de Dieu, la Trinité entière, et dans le même temps Marie, l'une d'entre nous. Sans distance, Jésus est le fruit de l'Esprit-Saint, comme de Marie. L'Esprit-Saint n'est donc plus sans visage. Par lui, la parole passe dans la chair. Il est intervenu en forme de promesse à trois reprises au premier chapitre de Saint Luc. « Le Seigneur est avec toi, sois sans crainte, Marie. » Il sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, de la lignée de David, par l'ascendance de Joseph. David, un roi prestigieux, dont les prophètes avaient annoncé que le Messie serait un de ses fils, Joseph est celui qui permet de faire le lien entre Jésus et David. Luc et Matthieu l'inscrivent dans sa généalogie, mettant ainsi en lumière le rôle de David dans le dessein de Dieu. Ce qui a été vécu par David sera vécu par Jésus. David est né à Bethléem, il sera obligé de fuir devant la menace de son fils Absalom et la menace du roi Salomon. Il gravira le mont des Oliviers en pleurant, en butte aux injures. Tout se passe dans le même lieu où Jésus vivra sa passion. Jusqu'au titre de roi, roi des Juifs, comme l'était réellement David. La passion et la gloire sont en filigrane de ce titre, elles s'accompliront en Jésus. Et la troisième promesse, l'Esprit-Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous pouvons nous demander pourquoi Marie? Pourquoi Marie a-t-elle été choisie? Qu'a-t-elle fait pour que cela lui arrive? On ne sait rien de Marie, ni de sa naissance, une femme sans titre, à la différence d'Élisabeth, on ne sait même pas de quelle tribu elle est. Elle habite un petit bourg aux confins du pays, là-haut, au nord, dont il ne peut rien sortir de bon, dira Nathanaël, avant d'être appelé à suivre le Christ. Nazareth. Marie se laisse surprendre. Qu'a-t-elle fait d'autre? Ou plutôt, si, elle s'est laissée regarder. Nous l'apprenons par le chant du Magnificat. Le Seigneur a posé son regard sur son humble servante. Chant d'Israël qui habite sa mémoire, inspiré du livre de Samuel. Comme tout être humain depuis le début de la création, Marie est sous le regard de Dieu. Et à la différence d'Adam et Ève, qui se sont soustraits à ce regard, peut-être est-ce la source du choix de Dieu que l'on peut lire en filigrane. La raison de son choix sur Marie, elle s'est laissée regarder. Tout au long de l'histoire de la révélation, Dieu est en quête de ce regard échangé avec l'homme, avec moi. Notre Seigneur est un mendiant d'humanité. « Adam, où es-tu » demande-t-il. « J'ai eu peur, » répond Adam. « Peur de sa nudité devant Dieu, peur de ses limites, les miennes. » Alors, les paroles de l'ange viennent au devant de Marie. « Sois sans crainte, Marie. » Dès ce moment, la tradition ecclésiale accueille Marie comme la nouvelle arche d'alliance. Un lien est établi avec l'Ancien Testament. Le livre de l'Exode présente l'arche d'alliance comme le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme. La nuée couvrait la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. La foi de l'Ancien Testament en la présence de Dieu dans l'arche de l'alliance oriente notre regard vers Marie, en qui se réalise la rencontre mystérieuse de Dieu et de l'être humain. Marie devient la demeure qui abrite ce mystère en train de prendre corps au premier jour. Elle devient l'arche où repose l'alliance, une alliance qui tisse ses fils dans le secret d'un corps de femme. C'est bien le sang d'une femme humaine qui coulera dans le corps de l'enfant en train de se tisser en ses entrailles. La foi de l'Église naissante fera de Marie la nouvelle arche qui abrite le Seigneur. Bien au-delà de ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous sommes invités à saisir ce qui se réalise en Marie comme la première approche du mystère des deux natures, Dieu et homme en une seule personne. Filiation humaine, filiation divine sont ici unis. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera appelé Fils de Dieu. Une alliance qui déborde tellement Marie qu'elle se verra prendre son enfant. Depuis l'épisode du temple à l'âge de 12 ans jusqu'à la vie publique, la passion et l'élargissement de sa maternité à toute l'humanité, par la désignation du disciple bien-aimé comme son fils. Mère du Fils de Dieu, Marie ne donne pas un fils à Dieu, elle donne au monde l'auteur de la rédemption. Son itinéraire de sainteté la conduit à devenir disciple de Jésus, son Fils, à qui elle a donné le jour dans notre histoire, dans notre humanité, lui qui est le Fils de Dieu. C'est ainsi que se forgera la foi de Marie, toute fondée sur la parole de Gabriel, car rien n'est impossible à Dieu.